Les enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Émilie Chaudet.
L'état de l'économie à 3 semaines de l'élection présidentielle en Iran, c'est l'objet de vos enjeux internationaux.
Avec notre invité Feridoun Kavand, bonjour.
Bonjour.
Alors 6 candidats donc le 19 mai à Téhéran et dans l'ensemble de l'Iran, il y aura un débat télévisé entre ces candidats retenus vendredi prochain. On en reparlera le moment venu. Alors on va essayer de voir quel est l'état de l'économie iranienne. La signature d'un accord sur le nucléaire militaire iranien en juillet 2015 entre Téhéran et les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU plus l'Allemagne avait changé la donne. De fait, un certain nombre de sanctions économiques avaient été levées. Alors de quelles sanctions s'agit-il? Elles émanaient des États-Unis, des Nations Unies, de l'Union Européenne. Est-ce qu'elles ont été efficaces? Est-ce qu'aujourd'hui l'économie iranienne est transformée de par le fait que ces sanctions aient été levées? Est-ce que le pétrole est redevenu une source significative de recettes? Quels sont les secteurs prioritaires et prometteurs? Donc beaucoup de questions. Il faut rappeler, Feridoun Kavand, l'Iran est un pays d'environ 80 millions d'habitants et un quart des Iraniens, exactement 24% ont moins de 15 ans, donc une grande vitalité démographique. En ce qui concerne l'économie, qu'est-ce qui vous frappe en premier lieu, Feridoun Kavand?
Écoutez, on peut dire que cet accord du 14 juillet 2015, mis en application le 16 janvier 2016, a suscité de très grands espoirs au sein de la population iranienne qui, on le sait, était frappée très durement par les sanctions économiques. Et cet accord a ouvert la voie à la levée des sanctions en contrepartie d'un encadrement rigoureux du programme nucléaire de la République islamique. Il y avait également un très grand optimisme au sein des milieux d'affaires occidentaux quant au potentiel retombées économiques de l'accord. Alors aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un certain pessimisme, c'est-à-dire que la population iranienne ne constate aucune amélioration sensible dans sa vie quotidienne, et puis les entreprises étrangères, elles, découvrent de plus en plus les très nombreuses embûches parsemées sur ce nouveau marché. Cela étant dit, comme vous avez dit vous-même, il y avait des avancées, notamment l'Iran, grâce à cet accord, a pu reprendre ses exportations pétrolières, et dans ce domaine, il y a un retour à la normale, ce qui est très important pour un pays dépendant du pétrole comme l'Iran. Et il y a eu également d'autres avancées. Par exemple, l'Iran a pu récupérer une partie de ses avoirs gelés à l'extérieur. L'image de l'Iran a été modifiée. Les délégations étrangères économiques en particulier arrivaient les unes après les autres dans la capitale iranienne. Les dirigeants iraniens, après une longue éclipse, ont pu aller à l'étranger, notamment le président Rouhani qui est venu en France et en Italie. Bref, il y a des avancées dans l'ensemble. Mais globalement, on peut dire que de plus en plus, on se heurte à des difficultés pour véritablement mettre en application l'accord qui a été signé en juillet 2015.
Alors, il reste encore des sanctions américaines, je crois.
Alors, le problème, c'est que cet accord du 14 juillet ne concernait que les sanctions liées au dossier nucléaire. Et dans ce domaine, effectivement, d'une part, on reconnaît, les milieux compétents internationaux reconnaissent que l'Iran met en application d'une manière intégrale l'accord du 14 juillet, et donc en contrepartie, les Américains, les Européens et les autres sont restés fidèles à leurs engagements. Mais il y a d'autres sanctions, c'est-à-dire ce qu'on appelle les sanctions primaires, les sanctions que les Américains ont pris depuis la révolution islamique sur les différents dossiers, droits de l'homme, le financement international terrorisme, ou par exemple le blanchiment d'argent. Ces sanctions sont en place et ces sanctions primaires pèsent lourdement sur l'application des sanctions dites secondaires, c'est-à-dire des sanctions liées au dossier nucléaire. Et c'est pour cette raison que, par exemple, un des domaines les plus sensibles, les banques occidentales ne peuvent pas participer au financement des exportations et des investissements dirigés vers l'Iran. C'est un obstacle majeur et jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de solution. Et puis, il y a aussi un élément nouveau, c'est l'arrivée au pouvoir de M. Donald Trump, le nouveau président des États-Unis, qui est farouchement hostile à l'application de cet accord. Il avait promis de le déchirer. Bon, maintenant, il paraît qu'il y a une certaine souplesse dans son attitude vis-à-vis de cet accord du 14 juillet 2015. Néanmoins, les entreprises étrangères ont encore très peur de l'attitude des États-Unis vis-à-vis de l'Iran et vis-à-vis d'une coopération avec ce pays.
Est-ce que l'Iran a retrouvé son niveau d'exportation d'avant les sanctions dues au programme nucléaire? Et en quoi est-ce que le cours du baril, qui est moins élevé ou plus bas que naguère, est-ce que cela joue?
Effectivement, l'Iran a retrouvé ce niveau, c'est-à-dire un peu moins de 4 millions de barils par jour. Les Iraniens exportent autant qu'avant la période des sanctions. Donc, dans ce domaine, on peut dire qu'il y a un retour à la normale. Mais vous avez raison, il y a effectivement, entre-temps, la chute du prix du pétrole. Cela étant dit, malgré tout, on peut dire que le retour à la normale des exportations iraniennes a contribué un peu à une certaine amélioration de l'économie iranienne. De toute façon, s'il n'y avait pas cet accord, s'il n'y avait pas le retour à la normale, l'Iran aurait pu se trouver dans la situation actuelle, par exemple, d'un pays comme le Venezuela, qui souffre d'autres problèmes, bien entendu, mais de toute façon, par exemple, il y aurait pu y avoir, par exemple, une chute beaucoup, beaucoup plus importante de la monnaie iranienne, ou une inflation qui tournait aux alentours de 40% et qui, grâce à l'action du gouvernement de Rouhani, maintenant, donc a considérablement baissé. L'Iran a une inflation en dessous de 10%.
Et le président veut se succéder à lui-même. On en reparlera. Quels sont les secteurs dans l'économie iranienne, les secteurs les plus prometteurs ou qui en profitent de cette reprise quand même apparemment significative?
Écoutez, globalement, on peut dire que vous avez en Iran une classe moyenne qui est consommatrice, qui est consommatrice. Par conséquent, cela permet à cette population de consommer. Cela fait tourner un peu le moteur de l'économie. Vous avez un secteur automobile qui est relativement dynamique. C'est l'industrie automobile la plus importante du Moyen-Orient. Et globalement, il y a une partie de l'économie iranienne qui profite de la levée des sanctions. En revanche, il faut préciser, c'est un point très important, que durant les sanctions, il y a eu en Iran des classes qui ont pu, des couches qui ont pu profiter des sanctions. On les appelle justement les profiteurs de sanctions. Et les tendances conservatrices de la scène politique iranienne sont liées surtout à ces profiteurs de sanctions et par conséquent empêche par tous les moyens également donc une avancée dans une amélioration des relations entre l'Iran et l'économie internationale ou les milieux d'affaires internationaux.
Juste d'amour, Feridoun, juste un mot, Feridoun Kadand, et je rappelle que vous êtes maître de conférence à Paris Descartes. Juste d'un mot, est-ce qu'on peut parler ou non d'une réinsertion générale au moins limitée?
Écoutez, globalement, on peut dire qu'il y a une amélioration, notamment grâce à la diplomatie de M. Rouhani et de son ministre dynamique des Affaires étrangères, M. Zarif. Cela étant dit, l'Iran ne peut pas, dans l'état actuel des choses, considérer comme un pays normal encore, en raison notamment de sa politique étrangère, surtout sur les grands dossiers, sur les grandes crises du Moyen-Orient. L'Iran s'est engagé en Syrie, en Irak, au Liban, au Yémen, et dans tous ces domaines, sa politique va à l'encontre donc des politiques occidentales. Je pense que tant que cette situation perdure, l'Iran ne pourrait pas devenir un pays normal dans ses relations avec les puissances occidentales.
Merci beaucoup Feridoun Kadand, franceculture.fr, pour vous réécouter, pour vous télécharger.
Et demain, Thierry Garcin, il sera question de l'avenir de l'ALENA, l'Alliance de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique.
Voilà, c'est une association très intéressante avec notre invité Christian Giraud, directeur de recherche honoraire au CNRS, donc l'ALENA, libre-échange Canada, États-Unis, Mexique.